Bonjour, chers frères et sœurs. J'espère que votre semaine a été agréable. Ici à Clermont, il fait beau, le soleil qui brille, comme on dit souvent, le soleil sourit et la température est vraiment agréable. Pas trop chaud, pas froid non plus, mais c'est agréable. C'est une bénédiction d'avoir le sabbat pour nous reposer et aussi pour nous fraterniser et surtout pour donner gloire à Dieu. J'espère que votre fête de Pentecôte a été agréable, ça a été profitable. Et maintenant, vous, non seulement au point de vue physique, mais surtout au point de vue spirituel. C'est que c'est un jour que Dieu, en ce jour que Dieu nous a donné son Esprit Saint, un don vraiment que nous devons utiliser chaque jour de notre vie pour nous rapprocher de Dieu, pour développer notre caractère, afin qu'un jour nous puissions être comme notre frère aîné Jésus-Christ. Ce matin, j'ai une question pour vous, et si vous avez besoin d'un titre pour mon sermon, le titre de mon sermon et soyez saints, car Dieu est saint. Soyez saints, car Dieu est saint. Vous savez, Dieu a dit, soyez saints, car je suis saint. Bon. Soyez saints, comme Dieu est saint. Et je commence par une question. Êtes-vous saint aux yeux de Dieu? Maintenant, il ne s'agit pas comment vous voyez vous-même à votre yeux, à vos yeux, et à vos yeux, comment êtes-vous à vos yeux, ou aux yeux du monde, aux yeux de vos proches, mais comment Dieu vous voyez. Si vous avez des membres de votre famille à l'extérieur de l'église ou des voisins qui maintiennent de fortes valeurs chrétiennes, mais qui n'ont jamais été appelés, vous pouvez les entendre parler de sainteté. On parle beaucoup de sainteté dans certains milieux religieux. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Beaucoup de membres de l'Église ne comprennent pas vraiment le sens de la sainteté. Mais ce matin, nous verrons combien elle est importante pour Dieu et sans elle, nous ne deviendrons jamais membres de la famille de Dieu dans le futur. Comment pouvons-nous? Parce que Dieu lui-même est saint et il n'acceptera jamais moins de son peuple élu. Voilà pourquoi il nous a donné son Esprit Saint, un dépôt de lui-même, une partie de lui-même. Les Israélites de l'Antiquité devaient être saints, car Dieu avait une alliance de mariage avec eux. Comme nous, aujourd'hui, des Israélites spirituels, Dieu nous a appelés, non parce que juste pour nous appeler, mais nous devons travailler ardemment pour développer notre caractère, pour atteindre la perfection, et afin de devenir membre de sa famille divine. Dieu est le même aujourd'hui, le même qu'hier et éternellement. Être saint est encore nécessaire pour ce que Dieu a mis de côté pour l'usage saint aujourd'hui. Veuillez vous tourner à Lévitique. Veuillez vous porter à Lévitique, au chapitre 19, nous lisons Lévitique, chapitre 19, le verset 2. Lévitique, chapitre 19, au chapitre 19, verset 2. Et c'est Dieu qui parle ici. Il dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Chers frères et sœurs, c'est un commandement. Ici, ce n'est pas une suggestion. C'est pas que une question que, OK, bon, nous avons un choix. Il n'y a pas de choix. Dieu a dit, soyez saints. Car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Et j'espère avoir adressé ce sujet dans le passé. C'est que Dieu est notre Dieu lorsque nous lui donnons la première place. Lorsque Dieu est notre Dieu. Et pour que Dieu, le créateur de l'univers, soit notre Dieu, nous devons avoir cette attitude, nous devons avoir cet objectif de nous sanctifier, de devenir saint comme lui, il est saint. Et maintenant, tournons à Lévitique 11. Lévitique chapitre 11, verset 44. Nous allons retourner et quelques pages en arrière pour arriver au chapitre 11. Maintenant, verset 44. Car je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, et vous ne vous rendrez point impur par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Mes frères et sœurs, c'est clair ici. Encore répété, Dieu a dit qu'il est saint et nous n'allons pas pour aucune raison ou une autre nous polluer par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Voilà. Et nous devons avoir ces choses dans nos pensées. Nous vivons dans un monde. Dieu, le Christ, avant sa mort, il a fait cette prière à son père. Il a dit à son père que je vous demande de les protéger du mal. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Vous et moi, nous sommes appelés, nous avons reçu le don du Saint-Esprit de Dieu et maintenant nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, nous vivons dans le monde, mais notre citoyenneté est là où le Christ est assis. Par contre, chers frères et sœurs, c'est important pour nous de comprendre clairement ce que signifie être saint. Nous devons d'abord comprendre le mot sainteté, un nom qui signifie état ou caractère d'être saint. État ou caractère d'être saint. Or, le mot saint signifie être mis à part pour le service de Dieu. Nous avons été appelés et maintenant nous sommes séparés du monde. Nous sommes séparés des autres gens du monde parce que nous sommes appelés pour un service spécial, le service de Dieu lui-même. Chers frères et sœurs, ce qui est saint appartient à Dieu. Ce qui appartient à Dieu est sanctifié, c'est-à-dire mis à part pour un usage ou un but saint. C'est comme le sabbat hebdomadaire et les sabbats annuels. Dieu nous a demandé de sanctifier ce sabbat. Sanctifier ce sabbat, sanctifier le sabbat. Maintenant, aujourd'hui, nous n'allons pas nous vaquer à notre boulot quotidien. Nous n'allons pas et nous livrer à nos train-train quotidiens parce que ce jour est un jour spécial, c'est un jour saint, un jour que nous mettons à part pour adorer Dieu, pour nous fraterniser et pour recevoir de la nourriture spirituelle. Et en même temps, en faisant toutes ces choses, nous nous approchons de plus en plus de Dieu. Dieu nous a choisis, il nous a appelés, il nous a donné son Esprit Saint pour servir et être utilisé dans un but spécifique. Vous avez été acheté avec un grand prix. Maintenant, ta vie, votre vie appartient à Dieu. Point final. Votre vie appartient à Dieu. Votre vie ne vous appartient plus. Vous êtes maintenant sanctifié et mis à part pour vivre une vie qui reflète la sainteté. Veuillez vous reporter au chapitre 6, au verset 20, de la lettre de Paul aux Corinthiens. La première lettre de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 6. 1 Corinthiens au chapitre 6, ça vient juste après sa lettre aux Romains. Dans 1 Corinthiens au chapitre 6 et au verset 20, et je lis. Car vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Vous voyez, chers frères et sœurs, la dualité. Il faut glorifier, nous devons glorifier Dieu dans notre esprit, c'est-à-dire nos pensées, notre intellect, et aussi dans notre corps. C'est-à-dire que notre corps est le temple du Saint-Esprit et nous devons glorifier Dieu parce que ici il dit qui appartiennent à Dieu. Notre corps, notre esprit appartiennent à Dieu. Parfois il y a certaines personnes qui vous disent ah bon et je peux faire ce que je veux. Non. Nous n'avons pas le droit de faire ce que nous voulons parce que nous n'appartenons pas à nous-mêmes. Et il faut faire des choix, mais tous nos choix devait être le reflet de ce que Dieu veut, la volonté de Dieu. C'est mon but et ce matin de parler du sérieux, le sérieux d'être saint, sanctifié et d'appartenir à Dieu. Parce que sans cela, l'engagement et la compréhension de la gravité de la situation, la possibilité de développer le caractère de Jésus-Christ et être dans le royaume de Dieu sont minces à tout à chacun. Parce que Dieu n'abaissera pas ses attentes et ses normes pour nous. Nous devons vaincre et nous élever à ses normes. La question qu'on peut se poser, Dieu a-t-il vraiment besoin de nous? Dieu a-t-il besoin de vous, êtes-vous nécessaire, trop nécessaire pour Dieu? Dieu a-t-il vraiment besoin de moi? Suis-je trop nécessaire? C'est que je vais faire des choses selon mon gré et dire, ah bon, c'est à Dieu de se plier, de se conformer. Ah, chers frères et sœurs, disons les choses comme ça, encore une fois, Dieu nous a appelés parce que, par sa sagesse, il voit le potentiel en chaque membre du corps du Christ. Mais ne vous y trompez pas. Il peut en appeler d'autres et les mettre de côté pour l'usage sacré s'il le faut. Je dois vous dire que quand je suis venu dans l'église, il y a 40 ans, plus de 40 ans de cela, et bon, non, je dirais même 45 ans de cela, c'est qu'il y avait des gens qui sont vraiment zélés dans l'église, des gens qui vous disent, ah bon, qui étaient vraiment heureux d'avoir trouvé la vérité et qui vous disent, ah bon, ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Mais malheureusement, ces gens-là ne sont plus partis de l'église, ils ont abandonné la foi maintenant. Et ils ne savent même pas comment adorer au Dieu, comment obéir à Dieu. Et c'est vraiment triste. Et l'apôtre Paul a dit, si quelqu'un croit être debout, qu'il prend garde de tomber, parce que à chacun de nous, chers frères et sœurs, nous sommes encore faibles. Nous vivons dans un monde influencé par Satan le diable, et nous sommes faibles. Et Satan, lui, il utilise toujours notre nature charnelle, il utilise notre ego et pour nous tenter. Et l'apôtre Pierre a dit que Satan est comme un lion rugissant. Il rôde autour de nous cherchant qui il pourra dévorer. Alors, chers frères et sœurs, en d'autre part, la Bible nous dit, nous devons lui résister. Nous devons résister à Satan le diable, nous devons résister à ses pressions. Et lorsqu'on lui résiste, maintenant, il fuira loin de nous. Et comment résister à Satan, chers frères et sœurs? Nous avons besoin de nous munir les armes de Dieu. Nous avons besoin de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir combattre les attaques de Satan le diable. Et nous devons être forts. Nous devons utiliser pleinement le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Notre vie et la façon dont nous vivons est extrêmement importante pour Dieu. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il n'acceptera pas moins. Nous devons vivre notre vie dans la sainteté. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, Dieu comprendra. Oui, je peux faire quelque chose. Oui, Dieu comprend que je suis faible. Dieu comprend. Il y a tellement d'excuses. Chers frères et sœurs, nous devons nous arrêter à faire des excuses, à prendre des excuses, à chercher les raccourcis en ce qui a trait à notre vie spirituelle. Nous sommes comme des outils que Dieu a choisis, qui peuvent accomplir son dessein. Et si les outils ne le font pas, il choisira d'autres outils qui le feront. Chers frères et sœurs, mon but n'est pas de vous effrayer ou de décourager. C'est pas mon but d'effrayer ou de décourager qui que ce soit. Mais c'est sérieux. Et cela vaut la peine de jeûner et de prier pour cela. Et nous ne devons pas attendre seulement avant de prendre la Pâque, de nous examiner. C'est quelque chose que nous devons faire chaque jour pour savoir est-ce que nous utilisons vraiment les outils que Dieu nous a donnés par le biais de son Esprit Saint. Et parfois, nous devons mettre de côté un jour pour jeûner, un jour sans distraction, de jeûner, de demander à Dieu de nous inspirer, de nous guider et de nous donner la force de pouvoir combattre les astuces de l'adversaire et surtout de résister les pressions de ce monde. Et nous devons viser la perfection dans tous les domaines de notre vie spirituelle. Nous ne pouvons pas devenir à l'aise et nous détendre et attendre de Dieu qu'il nous accepte tel que nous sommes. Nous sommes un sacrifice, nous sommes des sacrifices vivants. Et ce sacrifice doit devenir parfait. Nous avons tendance à utiliser l'excuse que nous ne pouvons pas être parfaits tant que nous vivrons de la chair. Et quand nous deviendrons un être spirituel, alors nous serons parfaits. Chers frères et sœurs, tout ce qui est dédié ou consacré à Dieu doit être le meilleur. Et puisque nos corps représentent le temple spirituel de Dieu, nous devons les garder physiquement et spirituellement purs devant lui. Les deux mots, sainteté et piété, font de pair. Je ne dis pas que nous ne trébucherons pas et que nous ne ferons pas d'erreur. Et je vous J'ai déjà dit cela. Parce que nous sommes encore dans la chair, nous vivons dans la chair. Nous sommes faibles. Mais nous ferions mieux de nous lever vite et de travailler à surmonter nos faiblesses. C'est là, chers frères et sœurs, nous devons comprendre ça. Nous devons comprendre, l'apôtre Jacques nous a dit que nous avons un avocat et cet avocat, c'est notre frère aîné. Jésus-Christ est notre frère aîné. Il est là pour défendre nos causes. Quand nous sommes faibles, quand nous reconnaissons que nous avons péché contre Dieu, et c'est quelque chose que nous devons faire régulièrement, d'aller à Dieu, d'aller vers lui, de lui demander de nous pardonner de nos péchés et de faire de notre mieux à ne pas les répéter. Et ainsi, nous pouvons voir l'Esprit de Dieu travailler avec nous. Et nous pouvons voir l'Esprit de Dieu quand nous regardons l'exemple du sacerdoce lévitique. Dieu attend le meilleur pour son usage. Et reportons-nous à Exode, chapitre 25, verset 11. Dans Exode, au chapitre 25, verset 11. Nous voyons ici une image de ce que Dieu a dit aux Lévites, du sacerdoce lévitique, dans Exode chapitre 25, verset 11. Tu la couvriras d'or pur. Tu la couvriras en dedans et en dehors. Et tu y feras une bordure d'or tout autour. Chers frères et sœurs, vous voyez ici, il parle d'or pur. Vraiment. Les sacrifices physiques commandés sur le sacerdoce lévitique devaient être parfaits et sans défaut. Seuls les meilleurs matériaux de la plus haute qualité devait être utilisé dans le tabernacle et dans le temple. Tout ce qui est dédié ou consacré à Dieu doit être le meilleur. Et chers frères et sœurs, c'est du côté spirituel et même aussi du côté matériel. Quand quelque chose est dédié à Dieu, nous devons faire de notre mieux. Vous rappelez l'exemple de Caïn et Abel. Caïn et Abel devaient faire une offrande à Dieu. Abel a choisi ses meilleurs brebis, la bonne part. Mais pour Adam, lui, c'était, et pas pour Adam, excusez, Caïn. Caïn, bon, après, ça a la légère. Pour lui, bon, ok, il faut faire un sacrifice à Dieu. Bon, une offrande à Dieu, bon. Il n'avait pas mis son cœur. Chers frères et sœurs, vous et moi, quand il s'agit de Dieu, nous devons faire de notre mieux. Nous devons prendre la décision d'aller jusqu'au bout afin que ce soit la plus bonne qualité. Même quand il s'agit de faire des sacrifices. Et puisque nos corps représentent le temple spirituel de Dieu, nous devons le garder physiquement et spirituellement pur devant lui. Les deux mots sainteté et piété, qui sont deux mots ayant la même signification, qui peuvent s'appliquer à notre corps physique et spirituel. Nos corps physiques appartiennent à Dieu. Dieu a mis en place des lois pour protéger le temple et pour garder propre physiquement et spirituellement. Voilà pourquoi dans la Bible, Dieu nous a donné une liste de viandes qui sont purs à manger. Nous savons qu'il y a des viandes pures et des viandes impures. Et Dieu nous dit de ne pas toucher les viandes impures. Et comme je l'ai mentionné et tout à l'heure, nous avons été sanctifiés et mis de côté pour un usage sacré. Nous devons vivre d'une certaine façon différente du reste du monde. Pour vivre d'une certaine manière, nous devons participer à la sainteté de Dieu. Chaque jour de notre vie doit refléter le caractère de Dieu. Regardons quelques exemples de comment vivre une vie de sainteté devant Dieu. Comme nous pensons, ce que nous pensons, ce que nous faisons et ce que Dieu voit que nous faisons. Parce que Dieu, lui, rappelez-vous, chers frères et sœurs, que Dieu est omniprésent, il est omniscient et omnipotent. Dieu est partout, il voit tout, il comprend tout, et nous ne pouvons pas cacher, nous ne pouvons pas nous cacher devant sa face. Et il dit, bien, il sonde les cœurs et les reins. Et David, le roi David, avait cette, il a dit que même quand pendant qu'il est dans son lit, il médite, Dieu est là. Et ça, c'est le même cas pour vous, chers frères et sœurs. C'est le même cas pour vous, c'est le même cas pour moi. Quand nous sommes dans le lieu secret, nous sommes dans notre chambre, nous sommes au lit, le monde extérieur ne nous voit pas, mais Dieu est là. Il nous voit, il nous regarde. Quand nous avons des pensées bonnes ou mauvaises, Dieu est là, il prend note. Il sait ce que nous pensons. Et voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je me rappelle, monsieur Yvon Bouchou a donné un sermon et il y a 6 ans de cela que j'ai écouté ce sermon, comment maîtriser vos pensées. Et c'est un sermon vraiment inspirant. Un sermon vraiment inspirant. Je vous conseillerais, si vous pouvez aller, si vous pouvez le trouver dans le répertoire de d'entendre encore, de réécouter ce sermon. Comment maîtriser vos pensées? Et nous devons, chers frères et sœurs, apprendre à maîtriser nos pensées, ce que nous pensons, les choses qui viennent à nos pensées. L'apôtre Paul nous a dit qu'il faut nous devons méditer, nous devons il a une façon qu'il a dit cela et de juger, de garder, de retenir ce qui est bon. La façon, chers frères et sœurs, de nous pensons, les choses, nos expressions, comment nous interagissons les uns avec les autres, ici même le jour du sabbat, devrait refléter la sainteté et la piété. Chers frères et sœurs, le sabbat est un temps saint, un moment sacré qui a été mis à part par Dieu lui-même. Reportons-nous à Exode au chapitre 20, verset 8. Exode au chapitre 20, verset 8, c'est Dieu qui parle ici, il dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Pour le sanctifier, comme je vous ai dit tout à l'heure, ici sanctifier veut dire de mettre ce jour à part pour un but bien déterminé. En gardant le sabbat saint, ce n'est pas le moment de crier l'animosité les uns envers les autres, de parler contre les autres, d'argumenter et de débattre sur la politique et les discussions concernant les affaires qui rendront difficile de garder le sabbat saint. Vous savez, et chers frères et sœurs, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils peuvent discuter quoi que ce soit. Pendant le sabbat, c'est un moment de s'assembler avec ses amis. Et puis bon, on a des discussions, on a des sujets parfois. Des sujets qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui n'ont rien à voir avec le sabbat. On parle des choses et qui se passent dans les actualités, alors que tout le monde le sait. Et non, mais pourquoi prendre du temps pour parler des choses que tout le monde savait? Non, tout le monde a appris ces choses-là. Et il y a des gens pendant le sabbat qui ont vraiment qui expriment d'une façon négative. Et c'est le moment pour eux de se plaindre contre le gouvernement de l'Église. Il y a des choses, il y a d'autres personnes qui profitent pour se plaindre et contre, peut-être ils n'ont pas d'accord avec un sermon. Ils sont toujours des choses négatives. Et ce que je vous conseillerais, chers frères et sœurs, il faut vous devez vous éloigner de ces personnes-là. Si quelqu'un dans l'assemblée a un esprit négatif, à chaque sabbat que cette personne vient à vous et vous dit des choses négatives et ses expressions sont des expressions négatives, je vous conseillerais peut-être de raccourcir vos conversations avec cette personne ou peut-être lui dire, ah bon, ok, on se verra plus tard et de ne pas participer à ces conversations. Bon. Et reportons-nous à Ésaïe au chapitre 58. Ésaïe, chapitre 58. Et nous allons lire le verset 13. Verset 13 et 14. Ésaïe 58, verset 13 ou verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon séjour. Si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, au verset 14, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Vous savez, chers frères et sœurs, le sabbat hebdomadaire représente le millénaire. Et c'est un moment, chers frères et sœurs, de se focaliser, d'avoir les yeux sur le monde de demain. Et c'est un moment, c'est un jour de réjouissance. C'est comme la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, pendant la fête des tabernacles, Dieu nous a demandé de nous réjouir, de nous livrer entièrement à la joie. Et, chers frères et sœurs, vous et moi, nous savons que ce qui se passe dans notre monde, et nous savons que la seule espérance, le seul espoir de l'humanité, c'est le royaume de Dieu. Ainsi, nous pouvons nous réjouir lorsque nous voyons le monde en train de souffrir, lorsque nous voyons les misères en ce bas monde, lorsque nous voyons la confusion chez les gens, la confusion dans notre société. Nous pouvons être confiants que Dieu va intervenir et va changer la course des choses et nous pouvons nous réjouir. Voilà pourquoi lorsque le sabbat est venu, nous sommes vraiment ça. C'est un moment de délice. Non seulement nous avons cette opportunité de nous rapprocher de Dieu, d'apprendre de lui, et aussi nous savons ce que ce jour représente. Chers frères et sœurs, vous et moi, nous devons chercher à nous préparer avant même le jour du sabbat. Par exemple, il ne faut pas attendre le vendredi et le vendredi du soir, le sixième jour, au coucher du soleil pour dire, ah bon, maintenant, Dieu doit me préparer. Non. On doit se préparer dès le premier jour de la semaine. On commence à se préparer. On commence à faire des plans. Et on commence vraiment à penser, bon, maintenant, et nous allons faire de notre mieux pour que ce jour ne soit pas un jour ordinaire pour nous et aux yeux de Dieu. Et quelles sont quelques des choses qu'on pourrait faire et pour garder le sabbat saint? Bon, la première chose, chers frères et sœurs, c'est comme je conseille aux gens, toujours aux gens, pendant la fête des tabernacles, si vous aimeriez d'avoir une fête agréable, une fête réussie, vous devez penser aux autres. Et c'est la même chose pour le sabbat hebdomadaire. Si vous voulez que votre sabbat soit un succès, faites de votre mieux. Et faites en sorte que le sabbat soit un délice pour les autres. Par exemple, quelqu'un, si vous savez quelqu'un qui habite seul, un célibataire, une personne qui, une veuve, prenez du temps et d'appeler cette personne. Prenez du temps, peut-être, si vous avez du temps, si vous pouvez, si vous avez les moyens de préparer quelque chose, pourquoi ne pas inviter cette personne à manger, peut-être, même s'il n'y a pas, c'est pas grande chose, mais quelque chose pour montrer que vraiment, et nous pensons à vous, nous voulons vous récompenser, nous voulons faire quelque chose pour vous. Il y a autre chose qu'on peut faire, il y a des notes, et si vous avez des amis dans l'église qui sont seuls, des personnes que vous savez qui sont peut-être malades ou bien qui ont besoin de quelqu'un pour les dire un mot, pourquoi ne pas peut-être envoyer une carte? Aujourd'hui, c'est facile avec la technologie, on peut envoyer des notes et par même sur notre smartphone et sur l'ordinateur, on peut envoyer des notes, on peut envoyer des cartes. Essayez de faire quelque chose, de faire des choses qui peuvent mettre une différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Invitez quelqu'un à déjeuner avec vous pendant le sabbat et quelqu'un, et comme je vous ai dit, quelqu'un qui ou quelqu'un qui est seul et sans esprit quoi que ce soit. Et c'est une belle façon, c'est la meilleure façon vraiment de dire les autres. Et comme la Bible nous a dit, il y a beaucoup plus d'honneur à donner qu'à recevoir. Il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si vous donnez, si vous mettez les autres, et Dieu va voir votre attitude, et il vous va bénir. Et comme je vous ai dit, c'est une partie de faire du sabbat un délice. Le sabbat est un temps saint. C'est pourquoi nous venons aux assemblées et Dieu nous a demandé d'apprendre et nous sommes venus. C'est pas, il y a beaucoup de gens qui pensent que lorsque la Bible parle de faire, ils disent faire et c'est à eux de prêcher les autres, prêcher aux autres. Il y a des gens qui pensent que maintenant après le sermon, il faut exprimer le connaître. Non, c'est pas cela que je dis. Mais on peut avoir des entretiens spirituels. On peut avoir des entretiens si Dieu a fait des miracles dans votre vie. Et pourquoi ne pas partager cela avec les autres? C'est bien de partager vos pensées. C'est bien de partager vos expériences avec les autres frères de l'Église. Maintenant, le sabbat n'est pas le moment de parler des choses et politique, de discuter sur les actualités et surtout quand cela peut susciter des discussions banales. Dieu nous a appelés et pour devenir membres de son Église. Et l'Église de Dieu est une Église sainte. C'est un corps saint. Nous avons été appelés à être chrétiens, préparés à gouverner sous Jésus-Christ afin de pouvoir changer le monde. Chers frères et sœurs, c'est pas notre monde. Ce n'est pas le moment pour nous d'essayer de changer le monde. Il y a beaucoup de gens dans l'Église qui pensent que, bon, il doit s'exprimer d'une façon, comment changer les choses, comment être des radicaux. Dieu nous a pas appelés pour être des militants, des radicaux en ce monde. Dieu nous a choisis afin que nous puissions être des outils qu'il utilise pour développer notre caractère afin que au moment opportun, nous pouvons aider nos frères dans le monde, nous pouvons aider les gens dans le monde à observer, à garder les commandements de Dieu. Notre monde n'est pas maintenant. L'apôtre Paul l'a bien dit, notre citoyenneté est dans le ciel où le Christ est assis. Ce n'est pas notre monde maintenant. Nous ne pouvons pas changer le monde maintenant. Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'être des exemples. C'est de vivre en tant que peuple de Dieu. Et ainsi, nous pouvons donner aux autres une espérance. Et Dieu reviendra. Dieu nous a demandé de prêcher l'évangile en tant que témoignage. Nous ne sommes pas des militants qui vont essayer d'amener les gens dans l'Église, de les convertir. Non, ce n'est pas ce que Dieu nous a dit. Mais il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Nous qui sommes maintenant, nous sommes dans ce monde, nous sommes que des pèlerins. Et reportons-nous à 2 Pierre au chapitre 11, chapitre 2, verset 11. Dans 1 Pierre, la première lettre de Pierre, dans 1 Pierre, je lis. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Voyez, vous et moi, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Ce sont des choses que, avant de venir de l'Église, je ne savais pas. Mais maintenant, je les connais, je les sais. Je suis voyageur, je suis étranger sur la terre. Et nous devons nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Au verset 12, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » C'est-à-dire le jour où Dieu les appellera eux-mêmes. C'est que, chers frères et sœurs, vous et moi, nous ne sommes pas placés pour influencer le monde, pour les convertir ou bien pour faire quoi que ce soit. Mais nous devons avoir une bonne conduite. Même quand ils ne sont pas d'accord avec nous, ils ne sont pas d'accord avec ce que nous prêchons, mais au moins, ils voient nos bonnes œuvres. Vous savez, la politique détruit les relations. Et même au sein des familles, il y a des gens qui développent de l'animosité à cause de ces genres de choses. Nous devons vraiment nous contrôler nos expressions, contrôler nos conversations, et parce que nous avons été appelés hors de ce monde. Et nous ne pouvons pas nous permettre de faire des compromis avec ce qui se passe dans le monde. Veuillez vous reporter à Apocalypse au chapitre 18, verset 4. À Apocalypse au chapitre 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses flots. Chers frères et sœurs, vous et moi, nous devons sortir de ce système. La Bible appelle Babylone, le système babylonien. Et chers frères et sœurs, je veux insister encore et encore sur ce point. Le sabbat est un temps saint, un moment saint. Ce n'est pas le moment de se mettre en colère et de se chamailler, mais c'est un temps pour honorer Dieu parce qu'il est saint. Quand nous nous honorons les uns les autres, chers frères et sœurs, nous n'honorons pas Dieu. Non. Par exemple, il y a des gens qui pensent et pendant le sabbat, c'est un moment d'avoir des rivalités, de la concurrence les uns avec les autres. Je me rappelle, il y a, dans le passé, il y a des gens pendant le sabbat, ils discutent leurs affaires, comment, leur but. Bon, c'est pas le moment, chers frères et sœurs. Et nous ne sommes pas dans l'église pour avoir des rivalités, pour des concurrences les uns avec les autres. Nous sommes dans l'église parce que Dieu nous a appelés et nous a placés dans son corps et nous devons nous aimer les uns les autres. Et regardons d'autres exemples de la façon dont nous pouvons maintenir une vie de sainteté devant Dieu. En tant que membre de l'église de Dieu, après que Dieu nous a donné son Esprit Saint, il est impératif que nous demeurions saints et de ne pas toucher les choses impures de ce monde. Nous portons à Romains au chapitre 12, verset 1. Romains, ça vient après Actes, l'Acte des Apôtres, Romains chapitre 12, verset 1. L'apôtre Paul nous dit ici, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et au verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Chers frères et sœurs, c'est Dieu qui fait le travail pour nous. Nous ne sommes que des instruments. Nous sommes des récipients de son Esprit Saint. La seule chose, chers frères et sœurs, pour vous et moi, c'est d'avoir la bonne attitude, d'avoir un esprit ouvert, de nous soumettre à Dieu, de ne pas nous conformer au siècle présent, de ce que nous voyons autour de nous, mais afin que nous cherchions à tout moment quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. Reportons-nous maintenant à 1 Pierre. 1 Pierre au chapitre 1, disons les versets 15 et 16. L'apôtre Pierre nous dit les mêmes choses. Il nous dit comment nous devons nous comporter. À 1 Pierre au chapitre 1, verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Parce que nous choisissons, il y a des gens qui choisissent, ah bon, je vais être parfait, je vais être saint dans ces domaines et dans... Non. Dans toute votre conduite, nous ne pouvons, il n'y a pas de choix, il n'y a pas à prendre et à laisser. Et au verset 16, parce qu'il est écrit, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Chers frères et sœurs, Dieu ne veut pas que ses futurs enfants, ses futurs héritiers, contaminés par les choses de ce monde actuel. Votre corps représente spirituellement le temple de Dieu. Il vous a choisi et vous a mis de côté pour un usage sacré. Veuillez vous reporter à 1 Corinthiens au chapitre 6. 1 Corinthiens au chapitre 6. Verset 19. Dans Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Et, chers frères et sœurs, c'est quelque chose que nous devons garder dans nos pensées, dans notre intellect, chaque jour, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, que nous sommes un récipient de l'Esprit Saint de Dieu. Dieu vit sa vie en nous, comme nous le voyons, comme j'avais utilisé le verset que j'ai utilisé la semaine dernière, que dans Galates, au chapitre 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Dieu. Maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit sa vie en moi. Et dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, verset 16 et 17, dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, verset 16 et 17, Verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Verset 17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Vous n'avez pas le droit de détruire votre corps, puisque c'est le temple de Dieu. Chers frères et sœurs, ce sont des mots très sérieux. Dieu est saint et c'est pourquoi il ne peut pas nous utiliser si nous ne sommes pas saints. Nous ne sommes pas utiles à Dieu comme outil si nous vivons une vie de souillure et cela concerne également le mariage. Nous devons rester fidèles à la sainte alliance et à la promesse que nous avons faite devant Dieu. La question pour vous, la question pour moi, chers frères et sœurs, vivons-nous une vie sainte devant Dieu dans notre mariage? Ou laissons nos yeux s'égarer ou même avoir de mauvaises pensées et qui s'égarent dans la mauvaise direction qui n'est pas agréable à Dieu? Vous savez, chers frères et sœurs, Dieu est saint et il a fait du lit conjugal un lit sacré. Le mariage représente le désir de Dieu que nous honorons l'alliance sacrée entre vous et votre épouse qui apporterait une semence pieuse. C'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Il a dit qu'il n'est pas bon pour l'homme soit seul. Il a créé la femme. Il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et Dieu a béni le mariage. Tout ce que vous entendez dans le monde, il y a tellement de choses. Les gens dans le monde, les gens du monde ont perverti le mariage. Et il y a des jeunes qui n'ont pas de patience et qui s'adonnent à la fornication. Il y a les hommes mariés, les dames mariées qui s'adonnent à l'adultère alors que Dieu dit non, tu n'auras pas d'adultère. Et Dieu l'a dit, et tu ne commettras point d'adultère. Ça, c'est l'un des commandements de Dieu. Dieu veut que nous soyons saints. Il veut que l'homme et la femme vivent en paix, dans la paix et dans la fidélité. Veuillez vous tourner dans 1 Corinthiens au chapitre 7. Nous portons à 1 Corinthiens au chapitre 7, verset 14. Dans 1 Corinthiens au chapitre 7, verset 14, l'apôtre Paul écrit, « Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. » Voyez, et Dieu reconnaît donc les intentions de l'homme et la femme et donne à toute la famille une bénédiction spéciale en les mettant de côté et même leurs enfants sont considérés comme une semence sacrée. Chers frères et sœurs, nous devons penser à cela. Et lorsque vos enfants vous suivent, vos enfants vous regardent et ils regardent vos actions, ils vous entendent et ils prennent des notes. Et Dieu veut que nous soyons des exemples pour nos enfants. Et quand nous sommes dans une famille où la maman ou le papa met Dieu, donne Dieu la première place, les enfants sont heureux, les enfants sont en paix. Et quand il y a une bonne relation entre la maman et le papa, les enfants maintenant apprennent mieux à l'école. On peut voir cela dans les familles stables. Il y a toujours du succès. Et parce que Dieu nous a demandé de travailler sur notre mariage. Et c'est pas quelque chose qu'on peut, un jour, bon, on veut être heureux, l'autre jour, maintenant, ça, non, non. Et Dieu nous dit que pour tout cela, nous devons travailler dur, nous devons avoir des pensées pures, nous devons avoir, des actions pures, nos expressions devraient être aussi pures. Et parce que Dieu est là avec nous, parce que Dieu est en train de travailler avec nous, nous avons son Esprit Saint. Et il y a des gens qui pensent que, puisque la lune de miel, ça s'est passé maintenant, tant mieux, je peux faire ce que je veux. Maintenant, nous devons faire de notre mieux pour garder le lien de la paix. Même quand qu'il y a des désaccords, mais c'est normal parce que quand il y a des désaccords, on est humain. L'homme est humain et la femme est humaine. Et il va y avoir des distractions, il va y avoir des désaccords. Mais quand nous mettons Dieu, quand nous prenons tout, nous suivons les instructions que Dieu nous a données dans la Bible, et on peut travailler sur ces problèmes. On peut résoudre les problèmes. On peut avoir la paix. On peut avoir l'harmonie. On peut avoir le vrai amour que Dieu a mis à notre disposition. Rappelez-vous, chers frères et sœurs, les fruits de l'Esprit de Dieu, la joie, la paix, l'amour, le premier fruit, l'amour, la joie, la paix, la patience et la bonté, la bienveillance. Tout ce sont des choses que, chers frères et sœurs, que nous devons cultiver dans notre mariage. Et quand nous cultivons ces choses dans notre mariage, et dans 1 Corinthiens au chapitre 13, qui est le chapitre de l'amour, l'apôtre Paul nous dit que l'amour est patient, l'amour est toujours prêt à pardonner. Nous devons toujours être prêts à pardonner notre époux, notre épouse. Et ainsi, nos enfants vont bénéficier de toutes ces choses-là. Et quand il s'agit à la maison, quel genre de film que vous regardez en tant que mari et femme, les enfants, vos enfants vous regardent, s'il y a des films qui sont inappropriés, il faut éviter ces films, ces genres de films. Et reportons-nous maintenant à Philippiens au chapitre 4, verset 8. Philippiens, au chapitre 4, verset 8. Ce sont notre façon, notre style de vie devait être basé sur ces choses-là, la voie divine. Dans Philippiens, au chapitre 4, verset 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Quand vous vivez de cette manière, chers frères et sœurs, vos enfants prennent des notes. Vos enfants vous imitent. Et chers frères et sœurs, vous pouvez dire que Dieu va vous servir, non seulement vous servir de vous, mais aussi de vos enfants. Mais quand à la maison, il y a des querelles entre parents, il y a des injures, des blasphèmes, et le mari blâme la femme et la femme blâme le mari. Ça, c'est la pagaille. Maintenant, c'est vraiment quelque chose que les enfants ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Mais pourquoi cette confusion? Et maintenant, les enfants vont avoir des problèmes psychologiques. Il y a beaucoup d'enfants qui sont allés à l'école, ils ne peuvent pas s'apprendre parce qu'il y a tellement de problèmes à la maison. Et nous devons penser à ce genre de choses. Et aussi pour les jeunes, vous jeunes, rappelez-vous que Dieu vous a demandé d'être saint, même si vous pouvez dire, ah bon, moi, je ne suis pas baptisé, je ne suis pas membre de l'église, mais si vous êtes dans l'église de Dieu, même si vos parents sont dans l'église de Dieu, vous apprenez des choses que Dieu vous dise comment vous devez vous comporter. Et si vous respectez Dieu, si vous faites de votre mieux pour obéir à Dieu, Dieu vous bénira. Mais si vous rébellez contre lui, vous souffrirez. Reportons-nous à Éphésiens au chapitre 4. Lisons les versets 29 à 31. Éphésiens au chapitre 4. Commençons au verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Au verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Au verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Chers frères et sœurs, c'est ainsi que Dieu veut que vous et moi soyons. Nous devons faire de notre mieux pour ne pas proférer des choses vulgaires. Et c'est triste, hein, chers frères et sœurs, quand on apprend qu'il y a des gens dans l'église qui, quand ils sont avec leurs amis pour faire des profanités. Et nous devons faire attention à toutes ces choses-là. Et il nous dit, toute amertume, colère, clameur, nous devons faire de notre mieux pour nous éloigner de ces choses. Et le verset 31 nous montre clairement comment les mots peuvent être utilisés d'une manière nuisible. Et vivre une vie de sainteté, Dieu exige que chacun des membres de son Église soit resté à l'écart de ce type d'attaque destructif qui reflète l'expression, le comportement de Satan. La parole de Dieu sert un but qui mènera à une vie de paix et de vrai bonheur. La parole de Dieu nous prépare aussi à une vie bien au-delà de cela, de l'existence physique actuelle. Mais la préparation commence maintenant. Nous sommes les outils de Dieu qui est en train de se servir, comme vous l'aviez appris la semaine dernière lors de la fête de la Pentecôte, la fête la fête des prémices. Vous et moi, nous sommes les prémices, nous sommes les premiers fruits, ce que Dieu a appelé maintenant. Et nous devons nous préparer, nous devons vivre une vie de sainteté. Et nous devons chaque jour, chers frères et sœurs, nous rapprocher de Dieu afin que nous puissions laisser Dieu vivre sa vie en nous. Nous devons développer une vie de sainteté et rechercher la sanctification. Dieu veut la perfection. Il veut que nous changions, que nous vivions une vie sainte. Et que cela signifie une nouvelle vie de vivre. C'est pas quelque chose qui est arrivé d'un jour au lendemain. Ça c'est un processus comme je vous ai dit il y a quelque temps de ça. La conversion est un processus. On n'est pas converti comme après avoir été appelé, bon, on s'est fait baptiser, puis bon, c'est fini. Non, nous devons continuer à travailler, nous devons persévérer jusqu'à la fin. Nous devons être patients, nous devons être prêts à souffrir, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances, parce que la récompense est grande et ça vaut mieux, chers frères et sœurs, ça vaut la peine de continuer à travailler, à vaincre nos tendances charnelles. Ça vaut la peine de continuer à développer en nous les fruits que nous avons reçus de Dieu. Rappelez-vous la parabole des talents. Nous devons continuer d'aller de l'avant vers la perfection alors que nous nous préparons pour au retour de Jésus-Christ. Et peut-être un jour dans les années futures, Dieu dira, c'est ma famille bien-aimée. Entre dans la joie de ton maître.